Les clés d'une vie, 13h-14h.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous vous battez comme une bête pour défendre la cause animale, et cela dans un cirque si différent de celui des médias, avec beaucoup moins de cabots. Bonjour André-Joseph Bouglione.
Bonjour Jacques Pessis.
Alors, il y a à partir du 18 décembre un nouveau cirque dont on va parler, l'éco-cirque. C'est une nouveauté, car vous descendez de la famille Bouglione, mais vous la modernisez. Il y a un livre contre l'exploitation animale, et il y a votre carrière, dont on va parler à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, non, pas vraiment, mais elle est importante dans l'histoire du cirque. C'est le 7 avril 1868. C'est la naissance du cirque à Londres par Philippe Astley.
C'est en 1768.
1768, oui.
Ah oui, oui, tout à fait. Il y a 250 et quelques années.
Voilà. Ouais. Alors, il faut savoir que Philippe Astley, c'est un écuyer qui a créé d'ailleurs à Paris, dans le Faubourg du Temple, un amphithéâtre anglais qui était une salle ronde avec 2000 bougies pour l'éclairer.
C'est vrai.
Alors, c'est une date importante dans l'histoire du cirque.
C'est la date de naissance du cirque. Quelque part.
Voilà.
Même s'il y a le cirque antique, le cirque romain, des gladiateurs et des chrétiens qu'on jetait au lion, bien, ça n'a rien à voir. Hein. Mais le nom du cirque s'est perpétué pour ce spectacle-là. Je ne sais pas vraiment pourquoi, en fait.
Voilà. Mais il a créé la première piste, en tout cas.
La première piste circulaire, oui, c'est vrai.
Alors, ça a évolué. En 1773, il y a eu les premiers chapiteaux.
Oui.
Et surtout, les animaux, c'est venu au 19e siècle et c'était au départ totalement éducatif, je crois, André-Joseph Bouglione.
Alors, c'était à la fois de la vulgarisation scientifique, parce qu'à l'époque, c'est vrai que les populations, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet, pas de cinéma, enfin, personne n'avait vu de ses yeux un éléphant, un tigre, un lion, enfin, voilà. À l'époque, en plus, il ne manquait pas l'état sauvage. Heureusement pour eux, ben voilà, le cheptel était très riche, et puis ben, les choses ont évolué.
Et le domptage, alors ce que je ne savais pas, c'est que c'est un écuyer français qui a créé le domptage en Bavière.
Oui, alors il y a Baucher, il y en a quelques-uns.
Mais pourquoi en Bavière comme ça? C'était le hasard?
J'en sais rien.
Personne ne sait.
Alors,
En revanche, il y a un cirque qui est très célèbre, qui date de 1854, André-Joseph Bouglione, c'est le cirque Pinder.
Oui, tout à fait, la famille Pinder qui vient d'Angleterre et qui est arrivée en France en 1854 avec le cirque Pinder qui est la réputation que tout le monde connaît aujourd'hui.
Et ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'après la guerre, il y avait des vedettes de la chanson qui se produisaient sur la scène de Pinder. Charles Trenet, Louis Mariano faisaient des tournées d'été.
C'est vrai, mon père est d'ailleurs né pendant le tour de chant de Charles Trenet dans la caravane de mon grand-père.
Et ben, ça lui a porté bonheur. Et puis, le cirque Pinder ensuite a été repris par Jean Richard. On se souvient de Maigret, mais ce qu'on ne sait plus, c'est que, et moi je l'avais rencontré Jean Richard à l'époque, c'était sa passion, et il s'est ruiné pour ce cirque.
C'est vrai que ça lui a coûté cher, et non seulement il avait un cirque, mais il avait monté un véritable groupe avec plusieurs cirques. Il y avait Jean Richard, Pinder Jean Richard, le nouveau cirque Jean Richard, il y avait le zoo d'Hermenonville, enfin c'était un véritable empire qui s'est effondré à la fin des années 70. Oui.
Oui. Et puis le plus grand quand même, c'est Phileas Barnum, qui en 1871 crée le plus grand chapiteau du monde. Oui. Il invente le marketing et la publicité.
Brillant.
C'est un homme brillant. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et puis, il y a quand même une chose importante dans les Bouglione, c'est Joseph, je crois votre arrière-grand-père, qui a récupéré des affiches qui ont vraiment ouvert la voie au cirque Bouglione.
C'est vrai, alors c'était mon grand-père, et quand il était tout jeune... Ils étaient arrêtés, je ne sais plus où, je crois que c'est vers Niort. Et il y avait, donc sur la place, à côté du cirque, il y avait une sorte de chemin de fer désaffecté sur lequel il y avait des wagons. Certains de ces wagons étaient les anciens wagons de Buffalo Bill. Quand il est venu en France, je crois en 1903.
À Paris, Porte Champéret.
Exactement. Et au lieu de ramener un wagon avec les affiches en Amérique... Vu que là-bas, elles n'auraient plus servi à rien, ils les ont abandonnées. Et ce sont les affiches qui ont permis à ma famille de mettre le pied à l'étrier et de rencontrer le succès. Enfin,
et de commencer et d'acheter le cirque d'hiver. Parce que les Bouglione, au départ, c'est ce qu'on appelle des roms.
Oui, tout à fait. Des roms saltimbanques d'origine indienne.
Et ensuite, comment est-ce qu'en arrivant à Paris, on peut racheter le cirque d'hiver?
Parce qu'ils ont connu quelques années de prospérité, justement, grâce à ces affiches du Buffalo Bill. Et que... Ils ont été inspirés, vraiment très bien inspirés à cette époque-là, de faire un spectacle que personne n'avait encore vu, quoi. C'était un peu bizarre. Il y avait les cow-boys, les indiens, mais c'était fait avec les moyens du bord, avec la famille. Le vrai Buffalo Bill était déjà mort, et c'était mon arrière-grand-père qui jouait son rôle, alors que les gens savaient que Buffalo Bill était mort. Enfin, c'est une blague, c'est une gigantesque blague, mais qui a marché, parce que les gens voulaient voir jusqu'où le bluff pouvait aller. Et en même temps, il y avait une séduction, parce que finalement, il y avait une ambiance, un spectacle qui marchait, qui était bien.
Et remarquez, la tradition est restée, puisque à Disneyland, il y a un spectacle Buffalo Bill à Paris, oui, à Marne-la-Vallée, et personne ne sait que ce n'est pas Buffalo Bill.
Enfin, les gens, je pense que certains le savent,
oui.
Mais ça vient de ce spectacle-là, donc a été peut-être inspiré par le spectacle Buffalo Bill de ma famille à l'époque. Ouais.
Alors, quand on pense au cirque d'hiver où vous Bouglione, il y a deux noms qui sont mythiques, qui reviennent, ce sont les Fratellini et Achille Zavatta.
C'est vrai, des grands clowns. Des grands clowns qui, d'ailleurs, ce sont des familles qui n'ont jamais eu d'animaux et qui sont pourtant emblématiques du monde du cirque.
Oui.
Ah oui, oui. Alors, les Fratellini, c'est les clowns italiens du début du siècle, des clowns vedettes. Avant Chaplin, c'était déjà des stars. Et ensuite, Achille Zavatta, c'est le clown star des années 50-60 qui a fait sa réputation et pratiquement sa carrière avant de créer son propre cirque. Chez nous, dans la famille Bouglione, au cirque d'hiver.
Oui, et il a été un des pionniers de la télévision dans les émissions de télévision, ce qui l'a beaucoup aidé pour sa carrière.
Oui, dans la piste aux étoiles et quelques apparitions au cinéma. Enfin, c'était un artiste exceptionnel.
Oui, il y a un feuilleton qui s'appelle Le Trésor des 13 maisons, qui est un des premiers feuilletons de l'ORTF, même de la RTF en 61, qui était le dimanche soir. Et la vedette, c'est Achille Zavatta.
Ah bien, alors là, j'apprends quelque chose, merci beaucoup.
Et il y avait un jeune débutant qui était le futur Patrick Devers comme partenaire.
Ah, oh, c'est drôle.
C'est drôle, il était enfin. Mmh. Alors justement, cette émission de la Piste aux étoiles, vous en parlez, voici le générique. La France entière, le mercredi soir, ne sortait pas, une fois tous les 15 jours, car on regardait la Piste aux étoiles.
C'est vrai, avec la musique mythique, Roger Lanzac...
L'orchestre de Bernard Hilda.
L'orchestre de Bernard Hilda, exactement.
Et c'est vrai, alors au début, ça a été tourné au Moulin de la Galette, en 1956, et ensuite, c'est passé au Cirque d'Hiver.
C'est passé au Cirque d'Hiver, également, il y a eu quelques tournages faits au Cirque Jean-Richard, enfin. Mais ça, c'est en majorité plutôt fait au Cirque d'Hiver.
Et c'est des émissions qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Il y avait 75 minutes de cirque tous les 15 jours.
Bien sûr qu'aujourd'hui, ça pourrait être fait d'une autre manière. Quelque part, le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien reprenait un peu le concept, présenté différemment. Mais je pense que c'est le genre d'émission qui a toujours sa place.
Oui, et Gilles Margariti, ce qu'il avait inventé, il avait lui-même été dans un cirque où il avait créé un numéro totalement surréaliste et oui. Chesterfield,
c'est
qui
vrai.
Est irrésistible avec Roger Caccia, et ça a donné l'idée de la Piste aux étoiles.
Oui, c'était les Chesterfield Follies.
Exactement.
Oui, oui, c'est vrai.
Alors, il y a aussi votre vie, André-Joseph Bouglione, jusqu'à 9 ans, bon, une petite vie de bohème, et ensuite une école qui s'appelle les Francs-Bourgeois.
Là, j'ai pas rigolé. Mais enfin, en même temps, j'en ai gardé un bon souvenir. Hein.
C'est quoi ? C'était dur ?
C'est une école privée, catholique, non mixte. Donc ça situe un petit peu l'ambiance,
ouais.
On rigolait pas vraiment, mais même si je n'y ai pas eu de très bons résultats, j'y ai acquis le goût d'apprendre, la curiosité. Finalement, je me suis un peu amélioré dans la vie, peut-être grâce à l'enseignement que j'ai reçu là-bas, sur le fait d'ouvrir un livre et de le lire, et puis de rebondir peut-être sur un autre.
Ouais, il faut savoir que cette école, en 2016, elle s'est classée première sur 110 lycées au niveau départemental, avec 100% de réussite au baccalauréat.
Ça ne m'étonne pas du tout, c'est une école excellente.
Ben voilà.
Et j'en ai gardé un très bon souvenir, hein, même si c'est vrai que j'y ai souffert aussi.
Alors, vous avez beaucoup lu, effectivement, et vous êtes fan, je crois, d'Alexandre Dumas.
Oh, pas seulement. Oui, oui, j'adore Alexandre Dumas. Notamment Le Comte de Monte Cristo. Enfin, c'est surtout ce livre-là que j'adore, mais pas seulement, hein, y en a d'autres.
Hein. Et puis, donc, ce cirque Bouglione, vous avez commencé comme placeur.
Oui, dans ma famille, au cirque d'hiver, jusqu'à mes 15-16 ans, où à l'époque, à 16 ans, j'ai quitté le cirque d'hiver, effectivement.
Oui, ouais, mais au départ, vous avez observé ce cirque, ça vous a donné envie de faire ce métier.
Ça m'a frustré parce que moi, je voulais le faire, mais mes cousins ne voulaient pas.
Pourquoi ?
Parce qu'ils étaient un peu timides, un peu timorés. Papa, maman avaient peut-être trop d'importance. Les décisions de papa, maman avaient beaucoup d'importance pour eux. Moi, je voulais faire du cirque et c'était dans le sang. Je ne sais pas pourquoi. honnêtement, encore maintenant.
Je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez fait, oui. Puisqu'en 1991, je crois, vous avez quitté le giron familial. Oui. Et ce qui s'est passé ensuite, on va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 15 octobre 1993. À tout de suite sur Sud Radio avec André-Joseph Bouglione.
Les clés d'une vie, 13h-14h.
Clés d'une vie, celle de mon invité André-Joseph Bouglione. Nous parlons tout à l'heure de ce spectacle qui débute à Montpellier le 18 décembre, qui est un nouveau cirque, l'éco-cirque. Et puis, on revient à une date importante, qui est aussi une première pour vous, le 15 octobre 1993. Et pour vous rappeler ce souvenir, une musique. La bande-annonce de la première du cirque Joseph Bouglione à Boissy-Saint-Léger.
Ah, c'est drôle ça, ouais. C'était en 91.
En
93.
93, Boissy-Saint-Léger.
Oui, c'est vrai, 15 octobre 93. Ouais. Oui, j'ai failli confondre avec la date de mon mariage.
Oui, c'est moi. Remarquez, c'est un mariage avec le public. C'est,
vous avez retrouvé cette date, c'est dingue. C'est la première fois que je monte mon cirque tout seul, sans associé, avec mes camions, mes animaux, mes artistes.
Oui, parce qu'au départ, quand vous êtes tout jeune, vous trouvez des associés pour un premier cirque.
Tout à fait, oui.
C'était
mais
quoi?
Il a fallu que j'attende quelques années, 2-3 ans. Et alors, quand j'ai quitté le cirque d'hiver, moi, j'avais que l'envie de faire du cirque. Mais voilà, à part regarder les autres faire, un petit peu mettre la main à la pâte, mais voilà, savoir vraiment, à l'époque, non, j'étais en train d'apprendre, en fait. Et pour apprendre, ben, le mieux, c'est de le faire. Et puis, à l'époque, moi, j'ai trouvé des associés parce que j'avais besoin de matériel, un chapiteau, des camions, enfin, voilà. Et ben, j'avais rien. J'avais pas de moyens non plus. Donc, mon cirque s'est construit en faisant du cirque. C'est curieux, mais...
Vous avez appris sur le terrain, quoi.
On a appris sur le tas.
Mais alors, ce cirque, donc le vrai, né 2 ans plus tard, il faut du matériel, il faut de l'argent.
Oui, tout à fait. Ben, c'est ce que j'ai accumulé pendant les 2 années où j'ai dû supporter le partage un petit peu de l'autorité. Dans un cirque, c'est pas simple, parce qu'on dit souvent que associer tout seul, c'est pas assez, puis à deux, c'est trop.
Alors, ce cirque, vous l'appelez Joseph Bouglione,
oui.
Ce qui fait scandale dans la famille, mais c'est un hommage à votre grand-père paternel.
Exactement, c'est un hommage à mon grand-père paternel, parce que ben, je pense que c'est l'homme qui m'a le plus influencé quand j'étais jeune, juste par son exemple. Et je trouvais dommage de mettre toujours le nom sans un prénom. Et il méritait qu'on mette son prénom à l'époque, en avant.
Et vous appelez André Joseph, Joseph à cause de lui ou grâce à lui?
Alors, je m'appelle André Joseph, André pour... mon grand-père maternel et Joseph pour mon grand-père maternel. Dans la famille, on n'est pas très originaux sur les prénoms. Oui, c'est vrai.
Et donc, effectivement, ça n'a pas été très bien pris par vos cousins ?
Ça n'a pas été bien pris du tout, non, non. Déjà à l'époque, encore maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Tant pis.
Et pourquoi ?
Je ne sais pas, c'est leur problème, ce n'est pas le mien.
Alors, quand on crée un cirque, le matériel, qu'est-ce que c'est, André-Joseph Bouglione ?
Ben, c'est un chapiteau, c'est une piste, des gradins, enfin voilà, de quoi recevoir le public dans de bonnes conditions, et puis donner des conditions également pour que les artistes puissent s'exprimer le mieux possible. Et puis c'est quelque chose qu'on améliore toute sa vie finalement.
Et un chapiteau, ça coûte très cher, les gradins, le chapiteau, c'est un lourd.
Oui, oui là, le dernier nous a coûté 2 600 000 euros.
Ah quand même ?
Oui, oui. Juste pour la scénographie, le chapiteau et les gradins. Donc effectivement, c'est un investissement assez conséquent.
Et puis, il faut trouver les artistes. Alors, soit le premier ou le deuxième cirque, comment avez-vous fait pour trouver les artistes, André-Joseph Bouglione ?
Alors, ben, comme maintenant, à l'époque, par connaissance. C'est souvent, on passe un... Moi, je ne me suis jamais vraiment déplacé, je n'ai jamais trop compris. On peut faire le tour du monde avec un réseau, finalement, que j'ai souvent utilisé. Et que j'utilise encore, qu'on appelle le Radio Circus.
Oui.
Et qui est en fait le réseau des gens du cirque dans le monde entier. On se connaît tous. C'est une petite famille, même si on est très nombreux.
Et donc, il suffit de demander, est-ce que tu n'as pas un jongleur ou...
Voilà, non, et puis même, moi, j'avais déjà quelques idées d'artistes dans la tête, là, pour le nouveau spectacle de l'éco-cirque. Et ça s'est fait par Internet, par Facebook. C'est pratique, en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui.
Oui, mais en 93, il n'y avait pas Internet.
Et en 93... Ah oui, alors en 93, c'est vrai, j'avais un agent qui m'avait donné un coup de main pour me trouver les artistes.
Et il faut aussi que le programme soit équilibré. C'est pas simple.
Alors oui, il faut... Alors à l'époque, bon, on présentait des animaux, ce qu'on a arrêté de faire, mais c'est vrai qu'il y a un équilibre, en général, dans le spectacle. On évite de faire suivre des numéros qui ne vont pas ensemble, le numéro trop fort... ou trop de numéros aériens pour éviter que le public ait finalement mal à la nuque au bout de 5-10 minutes. Voilà quoi.
Et puis il y a une jongleuse, funambule, écuyère, trapéziste, acrobate, clown, oui, Sandrine.
Qui m'a séduite à l'époque, ouais, c'est vrai.
Et qui est devenue votre femme.
C'est tout à fait ça, avec laquelle j'ai eu le bonheur d'avoir quatre merveilleux enfants.
Alors, effectivement, jongleuse, funambule, écuyère, trapéziste, on peut tout faire en même temps ?
Mais il n'y a pas tout là, elle est aussi clown, metteur en scène, directrice. Elle est exceptionnelle, Sandrine.
Mais on peut tout faire, ce sont des disciplines très différentes au départ.
Ben, elle était douée, elle l'est encore, elle est très douée. Oui, oui. Il y a certains artistes polyvalents qui touchent à tout et qui sont bien partout. Ça arrive.
Et on dit que le cirque, c'est l'ouverture à la danse et au théâtre.
Oui, oui, non, mais tout à fait. Même à la cascade, même enfin, à des tas de choses. Et, enfin, je veux dire, pour moi, le cirque, c'est une sorte d'école polytechnique où on peut tout faire. Comme le dit le mot polytechnique, c'est toutes les techniques, voilà, ou en tout cas un certain nombre, beaucoup.
Mais il faut non seulement tout faire, mais ça demande des semaines et des mois de travail, de répétition.
C'est vrai, certains numéros demandent même pratiquement une vie d'engagement pour les réussir. C'est vrai que là, on a un artiste qui s'appelle Alan Alegria, qui est un numéro de Trapèze Washington. Je déteste le voir en répétition parce qu'il joue vraiment sa vie, même en répétition, à chaque fois qu'il passe. Et c'est un numéro d'une vie. C'est tellement exceptionnel. Le geste de quand même de risquer sa vie pour finalement quelque chose de dérisoire. La satisfaction du public, faire vivre une émotion dans le public, c'est exceptionnel.
Oui, et moi je sais ce que ça représente le travail. Pour un gala des journalistes, un jour j'ai dû apprendre le jonglage, mais ça a été un an de travail, trois fois par semaine pour lancer trois boules et les rattraper.
C'est vrai, en plus le jonglage c'est pas pour tout le monde. Quoi.
On
ne l'est pas.
Oui, bah, j'étais pas doué.
Voilà. Moi j'étais pas doué non plus, j'ai jamais réussi à jongler de ma vie.
Alors, ce qui est difficile aussi quand on a un cirque, c'est de trouver les villes. Il y a quelques années, en 93, c'était plus facile qu'aujourd'hui.
C'était plus facile qu'aujourd'hui, c'est clair et net qu'à l'époque, on allait à peu près dans toutes les villes où nous voulions aller. Et puis les choses ont évolué. C'est vrai que le métier a été un petit peu saccagé par quelques-uns de mes confrères qui ont fait un peu n'importe quoi et qui ont finalement rendu quasiment impossible le fait d'aller dans certaines villes parce que ces villes-là ne voulaient plus de cirque. Il faut aussi se mettre à la place des mairies, des personnels municipaux. Se faire agresser une fois, deux fois, trois fois, ça va bien, quoi. Et à un moment donné, il faut passer à autre chose. Eh bien, c'est exactement le phénomène qu'on a vécu avec les municipalités en France qui, aujourd'hui, ne veulent pratiquement plus de cirque. Et, bien entendu, c'est souvent à cause de la présence animale. Aujourd'hui, le problème est clair. Mais il y a aussi eu des comportements de la part de mes confrères qui étaient inexcusables.
Moi, je me souviens du Radio Circus et du Cirque Spirou, qui était dans les années 60. Et il y avait aussi le Cirque Tintin. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Hergé, dont vous êtes fan, je crois, oui, avait peur des chevaux. Dès qu'il y avait un cheval, il était tétanisé, il était blanc et il s'écartait. C'est très curieux.
Ça, ouais, c'est curieux.
C'est vrai qu'il y a des cirques comme ça, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Des cirques d'été, des cirques de Noël.
Oh, des cirques de quartier ou de village qui ont tourné de façon éphémère. Oui, oui, tout à fait, il y en a eu des tonnes.
Et effectivement...
Et certains avec beaucoup de charme et de poésie. Hein.
Oui, mais il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui.
Non, malheureusement, le charme et la poésie ont un peu disparu du métier, ouais.
Et vous continuez à le pratiquer, même avec les technologies modernes ?
Mais même, justement, c'est ce que j'essaye de retrouver, de recréer avec ces technologies. C'est la magie qu'on avait à une certaine époque, dans les années 50-60 au cirque.
Et ben justement, on va en reparler tout à l'heure. Et une date importante aussi, c'est le 9 décembre 1997. A tout de suite sur Sud Radio avec André-Joseph Bouglione.
Les clés d'une vie, 13h-14h.
Clés d'une vie, celle de mon invité André-Joseph Bouglione, l'éco-cirque, on en parlera tout à l'heure, ainsi que de ce livre contre l'exploitation animale. Et le 9 décembre 1997, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
J'essaye de
alors, j'ai la mémoire, c'est sur Antenne 2, au journal de 13h. Vous êtes interviewé par Patrick Chêne, c'est votre première grande télé.
Patrick Chêne, exactement. Et il y avait un souci de liaison.
Exactement.
Où j'entendais rien du tout. Et tout d'un coup, j'ai entendu avec un écho de fou, ce qui fait que je n'ai rien compris aux questions.
Ah, vous avez pourtant bien répondu.
Ah ouais, j'espère.
Alors, c'était à Créteil et c'était surtout une demi-heure avant le spectacle.
C'était une demi-heure avant le spectacle et c'était un spectacle avec Pierrot Bidon, qui nous a quittés aujourd'hui, malheureusement, qui était le metteur en scène et créateur du Cirque Arcaos.
C'était une
expérience avec, pour moi, qui a été fabuleuse. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Arcaos, c'était un cirque d'avant-garde. Une sorte de, oui, un petit peu, on peut dire, un des premiers cirques d'avant-garde qu'il y a eu à une époque, qui était un cirque ultra moderne. Lui, il avait remplacé les chevaux par des motos, par des cascades. Et on avait créé avec lui un spectacle sur Beethoven. Et c'est vrai, le 9 décembre 1997. Mais je m'en rappelle parfaitement maintenant, c'est drôle.
Vous étiez sur la piste en tenue de scène,
avec donc à répondre en direct aux questions de Patrick Chêne.
Voilà. Et vous évoquez dans cette interview le cirque qui va beaucoup mieux, et vous défendez un cirque de tradition avec une touche de modernisme, André-Joseph.
Déjà à l'époque, oui. Alors à l'époque, je voulais qu'il y ait encore des animaux, et puis j'ai évolué là-dessus.
Oui.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, je voulais un cirque plus moderne, plus créatif.
Voilà. Et vous évoquez aussi l'exploit qui ne change pas, car l'exploit, il existe.
Ben oui, l'insopérieux reste insopérieux. On peut le présenter d'une manière ou d'une autre, ça reste insopérieux. Ça, c'est immuable. Après, c'est la manière de présenter, c'est l'art que va mettre justement un artiste pour faire ça.
Et puis il y a une tradition que vous maintenez quoi qu'il arrive, c'est celle de Monsieur Loyal, qui était d'ailleurs qui vient de loin, cette tradition.
Alors, Monsieur Loyal, au départ, il s'appelait vraiment Monsieur Loyal, c'est son nom. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu un personnage récurrent. Mais c'est pas parce qu'il était loyal, peut-être l'était-il d'ailleurs, mais c'est son nom de famille. Et d'ailleurs, je connais encore aujourd'hui des descendants de la famille de ce Monsieur Loyal qui est toujours dans le cirque.
C'est normal. Là, votre Monsieur Loyal, vous avez pris un Nicolas Hullmann cette fois-ci pour votre prochain spectacle.
C'est vrai.
Qui est un DJ au départ, branché.
Qui est un DJ, une sorte de master, un maître de cérémonie. Fou, il est comédien, c'est quelqu'un de brillant. Je l'ai rencontré cet hiver, l'hiver dernier, et on a tout de suite bien collé. Quoi. Je pense qu'il va faire. Il va dépoussiérer le personnage de Monsieur Loyal.
Oui, parce que
c'est une proposition tout à fait moderne.
Oui, parce que justement, le personnage de Monsieur Loyal, il se contente de présenter de Mes enfants applaudissaient. Ça a évolué, ça.
Là, avec Nicolas, vous verrez, ça a beaucoup évolué. Ça sera à chaque fois, il vient avec un nouveau personnage selon le numéro qu'il va présenter, et il trouve le mot drôle, enfin la petite phrase qui fait rire et qui en même temps apprend quelque chose au public.
Dans cette interview, on voit aussi une troupe, le docteur Paradis à la Villette. C'était l'époque 97 où il y avait des nouveaux cirques qui se créaient avec une notion tout à fait différente du cirque, André-Joseph Bouglione.
Complètement. J'ai parlé d'Arcaos, mais il y a eu aussi le cirque Plume de la famille Kudlak, enfin de Kudlak, et le Pieux Images de Christian Taguet. Enfin, c'est vrai que. Il y a eu une époque dans les années 70 jusqu'aux années 90 où il y a eu énormément, un foisonnement de nouveaux cirques qui s'est créé.
Et puis il y a eu surtout celui-ci. La bande-son du Cirque du Soleil.
Ah oui.
Car le Cirque du Soleil, on l'a oublié, c'est une sorte de SDF, Guy Latraverse, qu'il a créé.
Complètement, une sorte d'SDF, un gars qui vivait dans la rue à Paris. Qui a créé ça. C'était un Québécois qui était venu à Paris cracher du feu à Beaubourg.
Oui.
Et quand, apparemment, ça devait pas très bien fonctionner. Il est rentré au Québec, je ne sais pas. Et là, il a rencontré le club des échassiers. Et à partir de là, ils ont créé ensemble le Cirque du Soleil, qui a maintenant le succès que l'on connaît, et qui est un cirque non seulement au niveau de l'entreprise exemplaire, mais aussi au niveau culturel, au niveau artistique, et pour moi un exemple.
Pourquoi ?
Parce qu'ils n'ont fait que créer pendant 20 ans avec toujours le même souci d'excellence. Jamais ils se sont reposés sur leur laurier, même si actuellement ils traversent une crise économique.
Comme tout le monde.
Comme tout le monde d'ailleurs. Il faut les aider. Je pense que c'est justement le genre d'établissement de spectacle dont on a besoin.
Oui, ils sont pour beaucoup dans la modernisation du cirque.
Ils ont apporté énormément. Ils ont même porter le cirque à un niveau qui ne l'avait pas été jusque-là.
Grâce à la technologie ?
Pas forcément, surtout grâce au travail des artistes.
Oui. Il y a aussi une autre école qui existe grâce à Jacques Lang, c'est le Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne, où je suis allé faire un reportage, et je me souviens parfaitement du travail que faisaient ces jeunes, c'était des passionnés.
C'était des passionnés complètement. Et puis, c'est toute une génération de nouveaux artistes qui a été formée à Chalon et qui a créé non seulement des cirques, mais aussi des troupes de théâtre. Ce sont des artistes très polyvalents, très bien formés, justement. Ils savent un peu tout faire et ça a beaucoup enrichi la culture en France.
Oui, parce que finalement, certains pensent que le cirque, c'est poussiéreux. Pas du tout. Il évolue sans cesse et il y a de nouvelles générations.
Bien entendu, à chaque nouvelle génération, il y a un progrès. Sauf dans le milieu du cirque traditionnel, malheureusement, où depuis, on va dire, une génération ou deux, on a eu tendance à se reposer sur les lauriers de nos générations passées, même pas sur les nôtres.
Alors, à l'époque, quand vous faites cette interview sur France 2, vous dites que le métier est rentable, ce qui vous permet de continuer à vivre de votre passion.
Oui, c'est drôle. J'avais une vision assez drôle à l'époque. Rentable, ça veut dire quoi ? C'est comme si j'avais dit un métier propre.
Oui. Non, en même temps, oui. C'est un métier à risque.
C'est un métier à risque, non seulement physique, quand on est en piste et qu'on risque sa vie, mais aussi des risques financiers. Et on ne peut jamais garantir que le public va suivre, va venir. Même, j'ai vu des beaux spectacles de cirque se casser la figure et j'en ai vu des mauvais réussir. C'est curieux quand même.
C'est curieux.
C'est curieux, hein.
Et puis, il y a aussi des cirques qui font n'importe quoi pour avoir une place. Vous racontez qu'un jour, un cirque a proposé à un restaurant une exposition de maquettes.
Oui, bien sûr. Oui, ils proposent des expositions de maquettes, des spectacles où il y a juste un clown, et puis ils arrivent avec la cavalerie, les tigres, les lions, les éléphants. Ben voilà, quoi.
Ça existe encore, ça ?
Ça existe encore. On est en 2020, mais vous savez que c'est des choses qu'on imagine dans les années 30, et pourtant, qui ont lieu encore, malheureusement, tous les jours. Et c'est ça qui tue un peu le métier, petit à petit.
Oui, mais quand un restaurateur voit arriver 15 camions alors qu'il attendait deux personnes, qu'est-ce qui se passe ?
Son parking est bloqué, il peut plus faire sa propre activité. Et pendant un jour, deux jours, une semaine, voire plus, il est l'otage de cet établissement.
Alors, il y a aussi, effectivement, certaines villes qui ne veulent plus de cirque en centre-ville. Je crois que c'est le cas à Saumur, André-José Bouglione.
C'est vrai, à Saumur, il y a pourtant un lieu qui est susceptible de recevoir des cirques. Mais les cirques s'y sont tellement mal conduits que la ville ne veut plus de ce genre de brutalité en centre-ville. Voilà. Il faut savoir qu'il y a cirque et cirque en France. Hein. On parle d'un métier qui est représenté par certains tenants de la tradition qui ont un vrai respect pour le public et par d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans cette optique-là.
Alors, un jour, vous avez connu quelqu'un qui, lui, s'amusait, qui n'avait pas d'autorisation, à rentrer dans la borne d'incendie pour faire croire...
Oui.
Qu'est-ce qui s'était passé ? C'est incroyable.
Là, il faut l'expliquer. Le truc. Oui. C'était une combine. C'était une combine pour pouvoir faire à la fois monter de force, rester sur le lieu et avoir du monde.
Oui.
Je vous explique. Une fois qu'il était installé sur la place, très vite, dans l'heure qui suivait son arrivée, pendant que les gars montaient le chapiteau, il prenait un camion et il défonçait la bande d'incendie, ce qui faisait un geyser. Et en général... Toute la ville savait, dans la demi-heure, l'heure qui suivait, que le cirque était installé à tel endroit, et il y avait un geyser, les pompiers sont là, ça faisait un bordel pas possible dans la ville. C'est un cirque qui faisait ça pratiquement systématiquement.
Mais d'une ville à l'autre, on ne se passait pas le message en disant « attention, il va
arriver ». Après, ils avaient d'autres combines, ils variaient un peu les plaisirs. Mais ce cirque-là, aujourd'hui, dans les villes où il passait, on ne peut plus travailler. Ah. Ils ne veulent plus de cirque.
Et d'ailleurs, le public, lui, s'est fait avoir. Vous évoquez, André-José Bouglione, dans ce livre contre l'exploitation animale dont on va parler, la pub mensongère, c'est la fausse invitation.
Ah oui, ça a encore lieu, malheureusement.
Il faut mettre les auditeurs au courant,
justement. Des cirques qui distribuent des invitations. Donc, vous imaginez, vous avez une famille, une femme, deux enfants, trois enfants, vous recevez une invitation pour aller au cirque, vous dites « super ». On est invité, ça nous coûtera rien, on va au cirque. Sauf qu'arrivé devant le cirque, ces invitations se transforment en places payantes.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a toujours une combine, ils ne sont pas arrivés à la bonne heure, ils ne sont pas dans la bonne file, enfin voilà. Puis après, c'est trop tard. Au moment de rentrer sous le chapiteau, ils sont obligés de payer ou de rentrer chez eux. Donc, devant la femme et les enfants, le monsieur paye, mais avec une grosse impression de s'être fait arnaquer.
Ouais.
Ce qui est tout à fait logique.
Oui. Et il y a aussi l'arnaque au téléphone. C'est assez courant, c'est-à-dire que même je crois que votre femme un jour en a été victime.
Ah oui, alors il y a des gens qui se font passer, qui font des usurpations d'identité ils se font passer pour nous. Par exemple, pour acheter des animaux, enfin des trucs de fou, ça nous est arrivé. Une fois, j'ai réussi à tomber sur le téléphone d'un de ces imposteurs qui voulait se faire livrer des chiens par la poste.
C'est logique.
Et qui se faisait passer pour mon frère, alors que je n'ai pas de frère. Alors, j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Ça a commencé quand je lui ai expliqué qui j'étais. Il m'a menacé de mort. Oui. Il m'a dit, toi, t'es mort. Si tu m'appelles et que t'es pas content, t'es mort. Et puis, finalement, je lui ai expliqué que ça allait pas se passer comme ça, que c'est lui qui allait finir en prison et qu'on allait pas se laisser faire du tout. Et là, tout d'un coup, il m'a expliqué que mais il fallait pas réagir de cette façon-là, qu'on était de la famille, qu'on était cousins. J'ai dit, dans ce cas-là, bah, prends ton nom et puis n'utilise pas le mien. Et évite de faire... livrer des chiens vivants par la poste. Voilà, oui. Ça ne se fait pas.
Non. Et les animaux, justement, au départ, vous avez eu des animaux, je crois, et il y avait deux tigres auxquels vous étiez très, très attachés.
C'est vrai, les deux parmi les premiers qu'on a eus, Sandrine et moi, qui s'appelaient Madras et Dina, et qui, en nous quittant, nous ont fait beaucoup réfléchir. Et c'est peut-être leur exemple et leur vie à nos côtés qui ont fait qu'on a évolué sur la présence des animaux dans les cirques.
Oui, parce qu'ils faisaient vraiment partie de la famille. Quand vous sortiez, ils vous regardaient mais oui. Comme des enfants.
Oui, c'est curieux, mais les animaux sont des télépathes, en fait. Ils savent quelque part un peu avant les choses. Et ces deux tigres-là, mais les autres aussi, quand j'arrivais à côté des cages, même sans faire de bruit et tout ça, ils le savaient. C'est étonnant, on se sentait les uns les autres.
C'est-à-dire qu'ils venaient même, je crois qu'il y avait les baptêmes, les mariages, ils étaient là.
Ils étaient souvent avec nous. Et ben, souvent, on faisait ça en cage.
Oui.
Alors, ben, il y avait les tigres avec, c'est mieux.
Et puis un jour, vous avez compris que ça ne pouvait plus marcher comme ça.
Tout à fait, tout à fait. Ben, à force de vivre avec ces animaux, on s'attache tellement et on vit des choses qui sont même difficiles à expliquer. On vit jusqu'à leur mort avec eux, parce qu'ils n'ont pas la même espérance de vie que nous, et donc forcément, un jour, ben, on les perd.
Wow.
Et ça a été une expérience particulière pour Sandrine et moi, notamment Madras, comme je l'ai déjà expliqué quelques fois, à la radio ou à des journalistes. Madras, un jour, il a eu, quand je l'ai eu, il avait déjà un souci à la hanche et il avait une prothèse. Et en vieillissant, cette prothèse, un jour, s'est cassée. Elle s'est désolidarisée de l'os. On ne pouvait plus le soigner. C'était insoignable. Et ça s'est passé en quelques minutes. Quelques minutes avant, il allait bien et tout d'un coup, je l'ai vu s'effondrer. Il ne pouvait plus marcher. Et...
En tout cas, les animaux, vous en parlez beaucoup dans votre livre et dans ce spectacle, mais d'une autre façon. On en parle, nous, dans quelques instants, à travers une autre date, le 18 décembre 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec André-Joseph Bouglione.
Les clés d'une vie, 13h-14h.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité André-Joseph Bouglione. Alors, 18 décembre 2020, dans quelques jours, première de l'éco-cirque à Montpellier. Sud Radio est partenaire d'ailleurs. L'éco-cirque, c'est un cirque tout à fait nouveau et c'est quelque chose auquel vous pensez depuis très longtemps, André-Joseph Bouglione.
C'est vrai que c'est quelque chose que si j'avais eu la possibilité avant, je l'aurais fait. C'est une proposition qui va au-delà du problème artistique, de la création, qui inclut tous les aspects de la vie d'un cirque. Parce que c'est une entreprise qui est compliquée à faire tourner. On a de plus en plus de difficultés. Je pense que pour répondre à ces difficultés, il faut changer de manière, changer de façon d'être et changer aussi la façon dont on tourne avec un cirque. Au-delà du spectacle, hein, bien entendu. Notamment, on a parlé tout à l'heure des relations avec les mairies, avec l'éco-cirque. On n'organise pas la tournée de la même manière qu'avant.
C'est qu'on reste très longtemps dans une ville.
Déjà, on reste très longtemps dans une ville. À cause de ça, on doit rester dans des villes un peu plus grandes, au minimum des grandes villes quand même. Mais surtout, c'est dans la manière d'aborder la ville. Avant, on demandait des autorisations, qu'on obtenait ou pas, et puis selon, on allait s'installer. Il y avait un côté, on arrive, on monte... On travaille, on démonte, on s'en va. C'est un petit peu impersonnel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, chaque ville a sa propre culture, a son propre tissu entrepreneurial et associatif localement. Et qu'avec l'éco-cirque, on déploie tous les outils susceptibles de changer complètement la relation du cirque avec le tissu associatif et entrepreneurial local, et aussi le public. Et grâce à des partenariats. Donc, par exemple, à Montpellier, on a créé un partenariat où il y a un véritable échange gagnant-gagnant entre nous et la ville. Alors, gagnant-gagnant, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ça coûte une fortune à la ville. Ça peut même finalement coûter assez peu. Mais d'un autre côté, nous, on n'est pas là uniquement pour payer un droit de place et s'en aller. On n'est pas seulement des clients, on est aussi un acteur culturel qui a perdu beaucoup de crédibilité ces dernières décennies, malheureusement. Mais on est un acteur culturel, pour moi, majeur, parce qu'on remplit le rôle social d'aller dans des endroits où il n'y a plus de culture, où il y a un véritable désert culturel. Nous, le cirque, on est capable d'aller dans ces endroits-là. Donc c'est pour ça qu'il faut renouer une véritable relation de confiance entre le cirque et la ville en général et le cirque en général, pas seulement l'éco-cirque, pour pouvoir... retrouver une sorte d'âge d'or du cirque.
Voilà, parce qu'il faut savoir aussi, et c'est très important, si ça s'appelle l'éco-cirque, André-Joseph Vouglione, c'est que l'écologie est importante, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie verte, il y a des containers recyclés, ça oui. Aussi, c'est la modernité à laquelle vous tenez.
Bien entendu, l'énergie verte, parce qu'aujourd'hui, elle est accessible. On a un partenaire qui est Enercop, qui nous garantit un accès à l'énergie totalement verte, alors éolienne, hydraulique ou solaire. Et ben ça, c'est formidable. Aujourd'hui, on est à 100% sur cette énergie-là. Voilà.
Et 100% humain, le cirque.
Et 100% humain, parce qu'il n'y a pas d'animaux. Donc, c'est 100% humain, vraiment. Ce n'est pas du tout du bluff. Et donc, le spectacle sera un spectacle sans animaux. Oui. Ni sauvage, ni domestique.
Non, mais un spectacle avec des animaux grâce à des hologrammes.
Tout à fait, grâce à des hologrammes qui sont fabuleux, qui sont en fait un univers holographique au sein duquel vont évoluer les artistes. Voilà, c'est pas un spectacle d'hologramme. Voilà,
non, mais
pas que les gens.
Non, non.
Voilà, s'imagine voir un spectacle que d'hologramme. Il y a du réel, il y a de l'interaction, et les hologrammes ne sont là comme une sorte de décor, un support, tout à fait.
Alors, il faut savoir que Francis Weber a eu le même problème lorsqu'il a écrit sa pièce Un animal de compagnie, où il y avait un poisson rouge dans un bocal. Ah. La Ligue de défense des poissons rouges s'est plainte et il a dû mettre un hologramme à la place du poisson rouge.
Ben c'est super.
Voilà.
Oui, c'est super, parce qu'après, il faut se mettre à la place du poisson rouge, qui n'a que quelques litres d'eau pour faire sa vie. Enfin, je veux dire, c'est vrai que, bon, aller faire du spectacle avec ça, autant mettre un hologramme, je suis d'accord.
Alors, ce livre « Contre l'exploitation animale » qui est sorti chez Tchou, ça résume votre pensée sur les animaux, et je crois que c'est en 2017 sur M6 que vous avez vraiment jeté un pavé dans la mare, André-Joseph Vouglione.
Ben c'est vrai, ça faisait déjà quelques mois que nous travaillions à l'époque sans animaux, avec un spectacle de magie, de cirque et de magie. Et en fait, on avait un problème, c'est qu'on ne savait pas communiquer. On avait toute notre vie communiqué sur la présence des animaux et tout d'un coup, on n'avait plus les mots. Et donc, pendant ces quelques mois de tournée autour de Paris avec ce chapiteau et ce spectacle de magie qui s'appelait Alexandre et le cabaret magique, c'est drôle, mais comme il y avait marqué Vouglione sur les affiches, bien, on attirait un public classique de gens qui venaient voir un cirque avec des animaux. Et comme ce n'était pas marqué spectacle sans animaux, les personnes qui seraient peut-être venues pour assister à un spectacle sans animaux, eh bien, ne savaient pas que c'était ce qu'on pouvait voir chez nous. Donc, à un moment donné, on s'est dit, il y a un problème. On a vraiment un problème de communication. Et un jour, j'ai donné une interview, donc, en pensant que ça resterait local, que ça ne ferait pas de vagues au-delà de là où j'étais. Et finalement, ça a fait une sorte d'explosion médiatique à l'époque.
Oui, à l'époque,
j'ai juste expliqué qu'on arrêtait de présenter des animaux. Et à la question, et vos confrères, qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, j'ai dit, sincèrement, et je le pense encore, ben je pense qu'ils devraient aussi arrêter. Parce que voilà, enfin pour des tas de raisons.
Alors l'une des raisons,
c'est vrai que ça a été la phrase qui a causé tout quoi.
L'une des raisons, c'est que vous dites, le public ne veut plus d'animaux. Oui.
J'en suis persuadé. Il y a une petite minorité encore aujourd'hui qui a envie d'aller voir des animaux au cirque. Malheureusement, c'est une minorité. Enfin, heureusement ou malheureusement, je ne porte pas de jugement de valeur. Je ne fais que le constater. C'est un fait qu'on ne peut pas nier. Et oui. Pourquoi 70% de la population est favorable à l'interdiction des animaux au cirque. Ça veut dire que le cirque, aujourd'hui, n'est plus populaire. On n'a pas évolué, nous, les circassiens. Par contre, la société a évolué. Alors, il y a eu un décalage à ce moment-là, qui s'est creusé avec les années. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut radicalement évoluer, culturellement, et puis aussi au niveau de notre pratique entrepreneuriale, si on veut que le cirque survive.
Et vous dites aussi, dans ce livre, André-Joseph Bouglione, que le déclic, c'est une manifestation où il y avait une pancarte où il y avait écrit « Oui au cirque ».
Oui, parce que, alors, même quand j'ai arrêté de présenter des animaux, encore pendant quelques mois, quelques années, ça a été compliqué avec les associations. Et puis un jour, alors qu'on était à Chatou, on n'avait plus beaucoup d'animaux déjà à ce moment-là, et il y a eu une manifestation, et j'ai vu cette affiche « Oui au cirque, mais sans animaux ». Et là, je me suis dit, finalement, ce ne sont pas des gens qui détestent le cirque, ce ne sont pas des gens qui travaillent contre le cirque, mais c'est la présence, finalement, uniquement la présence animale qui leur pose problème. Et tout d'un coup, je me suis dit, voilà, ben, ce ne sont pas des ennemis. Il n'y a pas de raison de les prendre pour des ennemis. Et puis aussi, c'est à partir de là que j'ai commencé. J'avais déjà commencé à envisager d'arrêter les animaux, mais c'est là que j'ai commencé à l'envisager de façon un peu plus sereine. Parce que j'avais peur de la réaction de ma famille et de mes confrères au départ. Mais aussi, j'avais peur, comment dire, d'être quand même mal reçu par les associations animalistes. C'est curieux, mais j'étais tellement habitué à être leur ennemi juré que je ne me voyais pas en bon terme avec eux.
Et donc, finalement
et puis finalement, à part avec un ou deux, bon, il y a toujours des fanatiques partout, hein, on n'y peut rien. Et puis on ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas le but du jeu. Mais aujourd'hui, je suis vraiment copain avec les trois quarts des animalistes en France. Il n'y a pas de souci.
Mais quelquefois, le public ne perçoit pas le message comme ça. Il y a des débats qui n'en finissent pas sur le sujet.
Oui, bah parce que les gens s'attachent, veulent garder les choses en l'état, veulent un statu quo. C'est tellement confortable le statu quo. Voilà, mais bon, moi je pense qu'il faut évoluer. C'est plus indispensable aujourd'hui de brinque-baller des tigres, des lions ou des éléphants d'un parking de supermarché à une zone industrielle. Parfois dans des conditions où l'hiver il fait froid, l'été il fait trop chaud. Ouais, c'est bon. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est des animaux qui sont pour la plupart en voie d'extinction à l'état sauvage et que malheureusement, pour eux, il n'y a pas de solution non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'aide pas ces animaux à l'état sauvage en les présentant dans des spectacles de cirque.
Et vous dites qu'apparemment, ils sont détendus dans le cirque, mais que ce n'est pas le cas.
Détendus.
Détendus, il y a quelque chose, on a l'impression qu'ils sont tranquilles, détendus, ce n'est pas du tout le cas.
Alors ça arrive que, bien entendu, dans le métier, vous savez, il y a des centaines d'établissements qui ne sont pas tous pareils. Il y a certains établissements qui sont exemplaires et d'autres sont très loin de ça. Par exemple, vous avez un cirque en Suisse qui s'appelle le Cirque CNI, qui est un cirque qui est une référence mondiale, même pour les zoos, en matière de traitement et de soins aux animaux. Et bien ce cirque-là, malgré son excellence à ce niveau-là, a décidé, il y a un an, d'arrêter de présenter les éléphants. Il y a 20 ans, ils ont arrêté de présenter des fauves. Là, l'année dernière, ils ont arrêté de présenter des éléphants et ils ont connu leur meilleur succès historique. Ils n'ont jamais eu un tel chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est un cirque qui était le numéro un des cirques en Suisse avec des animaux. Et ils ont arrêté de présenter des animaux et ils sont encore numéro un. Il n'y a pas de problème. Je pense que le public même le demande.
Alors, les pouvoirs publics, en revanche, il y a des manifestations régulières, des rendez-vous au ministère de l'Environnement ou de la Culture, ça ne donne pas grand-chose.
Des rendez-vous
de gens qui veulent supprimer les animaux.
Si, il y a eu quand même une annonce très, vraiment, moi je pense sérieuse, de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique.
Oui, mais c'est nouveau ça.
C'est une annonce dont je vous ferai remarquer qu'elle n'a pas été démentie. Il n'y a pas eu de couac au niveau du gouvernement sur cette annonce, qui est exceptionnelle. Quand elle a annoncé qu'elle allait interdire les animaux sauvages dans les cirques en France, eh bien, il n'y a pas eu de couac. Il n'y a pas eu de démenti. Donc, je pense que ça a certainement dû être discuté en Conseil des ministres et que les choses vont se faire par décret ou par une loi prochaine. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais j'espère. En tout cas, je souhaite à Mme Pompili d'aller jusqu'au bout et qu'elle gagnera son arbitrage.
Alors, tout ça a évolué. Il y a un film qui présente une autre façon de montrer le cirque. Ce film, c'est Elephant Man.
Ah oui. Avec John Hurt.
Voilà. Et ce film qui s'inscrit dans la lignée du premier film, d'ailleurs, La monstrueuse parade de 1932, c'est pour vous l'exemple de ce qu'il ne faut plus faire.
Alors bon, ben là, il le faisait avec des personnes en situation de handicap à l'époque, oui. Comme on voit dans Elephant Man. Puis, de façon concomitante, ils ont continué ensuite avec les animaux. Et c'est vrai que c'est une vision du monde forain, en fait, pas seulement circassien, qui est un peu sordide, dur, inhumaine. Et ça n'est pas arrivé partout, ni tous les jours, et dans tous les pays, ce genre d'histoire. Mais Elephant Man est inspiré d'une histoire vraie. Hein.
Oui.
Eh oui, ça fait réfléchir, quoi.
Voilà, et aujourd'hui, vous avez réfléchi. Je crois que votre chapiteau est jaune et noir, comme
oui.
Une ruche.
Comme c'est les abeilles, oui.
C'est volontaire ?
C'est tout à fait volontaire, parce que les containers qui sont tout autour sont multicolores. Et le chapiteau est une abeille, et les containers qui servent au transport du chapiteau sont les fleurs.
Et il y a une empreinte carbone minimale ?
Tout à fait, quasiment réduite à... Pour l'instant, on n'a pas encore calculé, mais... Très, 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 très réduite. Même pour les transports, on est en container car ça nous permettra, en temps voulu, de pouvoir transporter tout le cirque dans des péniches ou sur train.
Ben, vous voyez, cette empreinte, pour l'instant, elle est carbone, mais j'espère que cette empreinte, elle laissera une trace dans l'histoire du cirque. C'est tout le mal que je vous souhaite. Mmh. Avec cet éco-cirque qui débute donc le 18 décembre à Montpellier et qui, j'espère, durera longtemps. Sud Radio est partenaire et je recommande aussi à celles et ceux qui s'intéressent à tout ce que vous défendez, ce livre « Contre l'exploitation animale chez Tchou ».
Merci.
Merci à vous, André Jouboulion, et continuez comme ça à faire rêver les générations.
Merci Jacques Pessis de m'avoir reçu.
Merci. Dans quelques instants, une autre émission. Et puis, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Surtout, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.